La bénédiction du Père, l'Esprit Saint, voici un enseignement du Père Jan-Dominique de La Forest, un enseignement enregistré lors du Festival Marial de Notre-Dame du Lot en juillet 2022. La bénédiction du Père, l'Esprit Saint, voici la première partie de cet enseignement du Père Jan-Dominique de La Forest.
Je me présente d'abord, le Père Jan-Dominique, je suis donc frère de Saint-Jean. Et je suis actuellement à Troussure dans l'Oise, donc à côté de Beauvais, dans un centre spirituel. Peut-être que certains le connaissent ici. Voilà, c'est un centre spirituel qui a été développé surtout par le père Caffarel, qui a fondé un mouvement qui s'appelle les équipes Notre-Dame, qui est aujourd'hui le mouvement pour la sanctification de la vie conjugale le plus important au monde, avec le plus de membres, et il est en voie de béatification. Hein? Donc voilà, on prie pour ça. Donc c'était un homme profondément habité par Dieu, un homme d'oraison, et qui a monté donc des écoles d'oraison dans ce lieu spirituel où nous nous trouvons, et on est arrivé en 97, donc pour prendre la suite de cette tradition à la fois de vie de prière et puis pour apporter évidemment notre grâce propre de frères de Saint-Jean qui se prolonge dans la vie d'oraison, dans la vie d'adoration du Saint-Sacrement et puis parfois il y a quelques surprises dans la communauté comme ce qui nous est arrivé il y a de ça 7 ans, donc dans cette maison où on a eu une visite de l'Esprit. L'Esprit est de retour. Amen. Vous vous rendez compte? Eh bien, ça a été presque une découverte, parce que je suis sûr que parmi vous, la plupart sont baptisés et confirmés. Tout le monde est confirmé aussi? Vous l'année prochaine. Amen. Elisabeth, on priera spécialement pour vous. Grand moment. Donc, on a reçu l'Esprit Saint. On a reçu tous l'Esprit Saint et on l'a reçu en plénitude. Et pourtant, il s'avère que assez rapidement, on se rend compte que notre vie n'est pas si marquée que ça par les fruits de l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est parfois un peu le combat intérieur, et on est plus marqué par le vieil homme que par l'homme nouveau en Jésus-Christ. Voilà, malheureusement. Et quelquefois, il y a des passages de Dieu comme ça. Il débarque dans nos vies, et nous, c'est ce qu'il a fait de manière un peu communautaire, en fait. Donc, il y a 7 ans de ça, dans cette maison, où on a fait un week-end donc de Pentecôte. Et au cours de ce week-end de Pentecôte, eh bien, nous avons interpellé l'Esprit Saint d'une manière dont on n'avait pas encore fait, et qui est une clé, quelque part, pour basculer quand même dans l'Esprit. Oui. Cette clé, c'est ce qu'on appelle l'audace. L'audace. Oui. On a osé, si je puis dire, demander à... On travaillait dans l'unité des chrétiens avec un autre frère, un petit peu. Et on avait demandé à un pasteur, on avait trouvé qu'il avait une présence, en fait, quand il prêchait d'une manière tout à fait spéciale. Et on lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour que l'Esprit Saint vienne? Et qu'a-t-il répondu? Il a dit, soyez audacieux. Soyez audacieux. Ouais. Si vous voulez voir l'œuvre de l'Esprit dans votre vie, soyez des enfants de Dieu audacieux. Et alors, ce que l'on a fait, c'est que on a décidé de faire un tract, un flyer pour... comment préparer cette veillée, l'annoncer, ce week-end de l'Esprit Saint, de la Pentecôte. Et en fait, sur le flyer, on avait marqué veillée de l'Esprit Saint. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé nous voir et qui nous a dit, mais dis donc, c'est pas ça qu'il faut écrire. Il faut écrire veillée d'effusion. Alors là, on est resté couac, on s'est dit, faut écrire veillée d'effusion. Ah bon, mais s'il n'y a pas d'effusion, On aura l'air malin. On aura l'air malin. Donc, on a eu un peu peur, quoi. Vous voyez? On s'est mis à avoir un petit peu peur en disant, bon, est-ce qu'on ose ou pas? Est-ce qu'on ose ou pas? Et puis finalement, donc, le frère en question a décidé d'écrire Veillée d'effusion du Saint-Esprit. Et là-dessus, il vient me voir et il me demande mon avis sur ce flyer. Et à ce moment-là, moi, je lui dis spontanément, et j'avais pas entendu le pasteur le lui dire, je lui dis spontanément, ça, c'est audacieux. Et donc, il tilte, et là, il s'est dit, oh là, là, il y a quelque chose de Dieu, quoi. Et donc, on va y aller. Alors, les gens qui nous connaissaient se disaient, mais ils sont venus nous voir en disant, mais dis donc, vous avez écrit Veillée d'effusion du Saint-Esprit, mais qui vous faites venir, quoi? Parce qu'ils nous connaissaient. Qui vous allez faire venir? Alors, vous allez faire venir qui? Vous allez faire venir, vous avez un contact, quelqu'un qui est dans l'esprit, enfin voilà. Il y a quelques noms, des grands charismatiques, etc. Alors, absolument pas. Et puis on a simplement répondu, ben, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et donc, on a fait ce week-end, et l'Esprit Saint est venu. Alléluia. Alléluia. Et il a débarqué. Il a débarqué, il a visité tout le monde. C'était très beau. Nous étions tous ivres. Ivres de l'esprit. Littéralement. On a vécu une véritable Pentecôte, quoi. Il y avait, comme si vous voulez, comment dirais-je, on était pris dans un, comme dans un vent. Comme dans un vent. Un peu étourdi même. Vous voyez? Avec la banane jusque-là, quoi. Pendant tout le week-end, quoi. Et des frères, même âgés de notre communauté, se sont mis à ouvrir la bouche alors qu'ils n'ouvraient jamais la bouche. Ils se sont mis à avoir des paroles de bénédiction, des paroles donc dites de prophétie. Incroyable. À 75 ans, vous avez votre frère en religion qui se lève et qui se met à subitement avoir des paroles extraordinaires pleines du bon Dieu, quoi, alors qu'il est muet d'habitude. Waouh! Passage de Dieu, quoi. Passage de Dieu. Alors du coup, ben, on essaye un petit peu de, vous voyez, de redonner des clés pour pouvoir se préparer à ça. Et c'est ce que je voudrais voir un petit peu avec vous sur cette grande bénédiction de Dieu. Hein. Parce que quand même, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, vous lisez sans doute l'Écriture, mais quand on médite notamment le passage sur le baptême du Christ que vous retrouvez dans les différents synoptiques, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez Jésus qui descend dans le Jourdain, et au moment où il descend dans le Jourdain, les cieux s'ouvrent, une colombe descend, et une voix se fit entendre. Et cette voix qui se fit entendre dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Ouais. Ça, c'est la parole de Dieu. Le moment du baptême du Christ dans le Jourdain. Et quand vous regardez l'évangile de Saint Jean, où il y a cette rencontre des disciples avec Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il est dit? Jean le Baptiste révèle comment est-ce que le Père lui a désigné son fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Et il lui dit, celui sur qui tu verras descendre une colombe, l'esprit, c'est celui-ci. La bénédiction de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Elle est là, la véritable faveur de Dieu, la véritable bénédiction de Dieu. Elle est dans le don de l'Esprit Saint. Vous êtes chacun d'entre vous, en fait, des favoris de Dieu, quoi. Chacun d'entre vous, vous êtes des favoris de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit Saint. Il y a une bénédiction de Dieu qui repose sur vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette bénédiction-là, mais vous avez en vous quelqu'un qui peut changer le monde et qui change le monde. C'est pas n'importe qui. Et il est mieux que vous soyez dans cet état-là plutôt que d'avoir vécu à l'époque du Christ. C'est quelque chose d'incroyable, ça. Jésus le dit, c'est en Jean au chapitre 14, je crois. Je voudrais vous le citer. C'est au chapitre 16, excusez-moi. Chapitre 16, verset 7. Il dit ceci. « Mieux vaut pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Oui. Il faut avoir conscience de ça, quoi, de se dire qu'en fait, les apôtres ont vécu pendant 3 années avec le Christ. Ils étaient côte à côte avec le Christ. Le Christ était leur guide. Le Christ était celui qui leur donnait la direction. Le Christ était celui qui leur manifestait et leur révélait l'amour du Père. Le Christ était celui qui, devant eux, opérait des guérisons, des libérations, des miracles. Le Christ était celui qui était la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il était à côté d'eux. Il vivait perpétuellement. Pendant 3 ans, ils ont vécu à côté du Christ. Alors, quelquefois, on se dit, mais Seigneur, waouh, quelle grâce ils ont eu quand même, les apôtres. Vous ne vous dites pas ça? Quand vous pensez aux apôtres, vous ne vous dites pas, waouh, quelle grâce. J'aurais aimé faire partie de la bande quand même. Franchement. Et Jésus vous dit, tu vois, mieux vaut pour toi que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers toi. Ta situation aujourd'hui est préférable à celle des apôtres. Ta situation aujourd'hui est préférable à celle des apôtres. Jésus était localisé, hein. Il était localisé, il était dans un lieu. Il n'était pas dans 2 lieux à la fois. Quand il était en Galilée, eh bien, il n'était pas à Jérusalem. Aujourd'hui, tu as Dieu avec toi 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, tu as Dieu avec toi. Où se trouve Jésus? Il se trouve là où je suis. L'adresse de Jésus, c'est moi. Je suis l'adresse de Jésus. 3 rues du château, à Troussure. Vous cherchez Dieu? Ben oui. C'est fou. J'ai toujours Dieu avec moi, j'ai toujours Jésus avec moi, j'ai toujours l'Esprit Saint avec moi, quoi. Là où je suis, quoi. Perpétuellement. Perpétuellement, j'ai le Saint-Esprit qui est là, quoi, qui est en moi. Et vous vous rendez compte de la grâce que c'est, quoi. Je vous le dis parce que on ne le conscientise pas. On l'oublie complètement. Mais tu as Dieu avec toi 24 heures sur 24. Il est là, il est présent. Il n'est pas ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Il y en a qui l'ont cherché ailleurs. Saint Augustin était l'un des premiers à le chercher ailleurs. Je l'ai cherché à l'extérieur de moi, alors que tu étais au-dedans de moi. Alors que tu étais au-dedans de moi. Oui. C'est pour ça que, petit à petit, on rentre toujours dans l'intériorité, et même une effusion de l'Esprit Saint, etc., eh bien, ça nous conduit toujours à l'intériorité. Toujours, toujours. Ça nous conduit, en fait, à nous révéler et à réveiller notre conscience sur la présence intime de Dieu en nous, en chacun d'entre nous. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. Il faudrait, vous savez, aujourd'hui, dans le milieu médical, on fait des imageries à résonance magnétique. Il faudrait faire une imagerie à résonance spirituelle. Vous savez, on vous scanne, et puis qu'est-ce qu'on voit? Oh, dis donc. Il y a quelqu'un en toi. Une imagerie à résonance spirituelle, ce serait pas mal ça. Hein? On verrait le Saint-Esprit en vous. Alors je ne sais pas dans quel état. Un état d'embryonnaire ou déployé. Déployé au point où le Saint-Esprit, eh bien, se voit dans votre regard. Parce que vous avez le regard de Dieu sur votre prochain. Se voit dans votre zèle à annoncer l'évangile. Se voit dans la manière dont vous approchez les personnes, la manière dont vous les touchez. Parce que vous êtes saisi de compassion et que votre toucher communique la charité divine. Ça, ce serait merveilleux, quoi. Qu'on puisse continuellement, vous voyez, eh bien, vivre comme ça. Avec l'Esprit Saint déployé. Et c'est le but, un petit peu, vous voyez, d'une effusion, quoi. Parce que, dans le cadre d'une effusion, si vous voulez, bah, comme je vous ai dit, là, vous êtes tous confirmés, quoi. Vous avez tous la plénitude de l'Esprit Saint. Bon. Vous savez, vous proposez une effusion du Saint-Esprit à un... Il y a quelqu'un qui m'avait raconté qu'il avait parlé de ça à un évêque. Et puis, l'évêque lui avait répondu, mais on l'a déjà en plénitude. Il lui avait répondu, mais dis donc, mais j'ai pas encore vu un échantillon sur vous. Un échantillon. Bah oui, faut avoir un échantillon quand même sur soi. Oui, c'est fou, hein. C'est fou. Et l'effusion du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu, l'Esprit Saint qui est en nous, eh bien, c'est là pour, si vous voulez, eh bien, déverrouiller l'action de l'Esprit Saint en nous. Le conscientiser davantage et le déverrouiller pour qu'il jaillisse dans nos vies. Oui. Et généralement, en fait, l'un des premiers fruits, c'est vrai, d'une effusion du Saint-Esprit, c'est quoi? Ben, c'est que vous êtes un petit peu, vous sortez de là un peu illuminé, quoi. Vous avez l'impression de voir Dieu partout. Ben, il y a quelque chose de ça, c'est vrai, hein. C'est vrai. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne comme premier fruit une conscience de sa présence là où vous êtes, en toute chose. Ça, c'est le premier fruit de l'effusion. C'est que ça active votre foi. C'est que vous touchez la présence de Dieu. Vous avez cette certitude intérieure, en fait, que Dieu est là. Ça change absolument tout, toute votre vie. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus orphelin. Vous n'êtes plus orpheline. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous voyez, pendant c'est simplement, on se voit aujourd'hui, on va se revoir demain. Bon, c'est court, hein. Mais moi, j'aimerais beaucoup, vous voyez, qu'on puisse essayer de passer, d'une certaine manière, d'un cœur d'orphelin à un cœur vraiment de fils bien-aimé du Père. À un cœur d'enfant de Dieu. Oui. D'un cœur d'orphelin à un cœur d'enfant de Dieu. Parce qu'on fonctionne comme des orphelins. C'est impressionnant, quoi. Comment on fonctionne comme des orphelins. Et ce sentiment, en fait, d'être seul, si vous voulez, on le doit quand même, à quelqu'un, quoi. Malheureusement. À celui qui a mis, en fait, une fracture entre l'homme et son créateur. Parce que lui, d'un choix éternel, il s'est détourné de Dieu. D'un choix éternel, il s'est détourné de Dieu. Il est devenu orphelin par choix. Et il a envie d'emmener tout le monde derrière lui, quoi. Et nous, on a quelque part, vous voyez, à découvrir, mais où est notre cœur d'orphelin? Où est notre cœur d'orphelin? Où est-ce qu'on fonctionne, en fait, comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas Dieu en lui? Oui. Le cœur d'orphelin, dans son rapport à Dieu, s'il est croyant, il va sans arrêt chercher à mériter l'amour de son Père. sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors que le cœur du Fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, en fait, il a cette certitude intérieure que l'amour de Dieu ne change pas sur lui. Que l'amour de Dieu est un amour ineffable, est un amour éternel, est un amour qui l'enveloppe, qu'il soit pécheur ou non. L'amour de Dieu, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que vous venez faire un pèlerinage à Notre-Dame-du-Laus que l'amour de Dieu va grandir dans son cœur pour vous. Non. L'amour de Dieu ne change pas. Si toi tu es infidèle, moi je suis fidèle. Et je suis fidèle à mon amour pour toi. Et comme dit le prophète Osée, si une mère abandonne son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne sait pas faire ça, c'est hors de lui ça. C'est un trou, c'est du néant, l'abandon. Oui. Pas d'abandon en Dieu. Par contre, il nous demande, lui, de rentrer dans un chemin d'abandon, ça oui. On est invité à rentrer dans un chemin d'abandon pour être de plus en plus, d'une certaine manière, eh bien pleinement fils. Et qui sont les fils de Dieu? Vous l'avez entendu à l'homélie hier, si certains étaient là hier à l'homélie. Eh bien, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui vivent de l'Esprit de Dieu, ceux-là, dit saint Paul, ceux-là sont fils de Dieu. Ceux-là sont fils de Dieu. Donc, vous voyez, vous avez vos chaussures, là, vous auriez pu les laisser au placard. Eh bien, ça, c'est la grâce du baptême, bien souvent, du chrétien. C'est aussi la grâce, aussi, parfois, la grâce de mariage. La grâce du sacrement de mariage. Bien souvent, le sacrement reste au placard. C'est... On passe pas par Dieu, on passe pas par le sacrement pour rejoindre, en fait, son conjoint. C'est le problème. Mais dès la grâce du baptême, c'est la même chose. Dès la grâce du baptême, vous recevez, paf, mais le nombre de, mais moi, j'ai quantité de personnes dans ma famille, si vous voulez, qui sont baptisées, mais qui foutent pas les pieds à l'église, qui ont une vie à 100% dans l'esprit du monde. Ils sont baptisés. Ils sont baptisés. La grâce est au placard. Au placard. On dit merci, merci pour la grâce du baptême, mais elle est restée au placard. Elle n'est pas actuée. Elle n'est pas actuée. Donc un enfant de Dieu, ça se reconnaît pas au baptême. Alors là, c'est un scoop. Hein. Ça se reconnaît pas au baptême, au baptisé. Non, 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 non. Non, non. Alors, profondément du côté de l'être, la grâce du baptême nous greffe au Christ, bien entendu. Mais ça ne se reconnaît pas. Et c'est ça le problème. C'est que quand je vous vois et quand vous me voyez, mais normalement ça fait une différence. Quand je croise Claudine, eh bien ça doit faire une différence dans ma vie. Ça doit faire une différence. Elle est pleine de Dieu, Claudine. Ça doit faire une différence, normalement. Vous voyez, vous rencontrez un chrétien. Si le chrétien est habité par l'Esprit Saint, ça doit faire une différence dans votre vie. Ça doit faire bouger quelque chose. Ça vous secoue parce qu'il est habité par l'Esprit de vérité. Alors, il vient déranger les forteresses de pensée qu'on a intérieurement. Et qui sont marqués, qui sont des forteresses construites par le monde. L'esprit de vérité vient et il vient vous titiller là. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à saisir et d'avoir la foi dans le fait que chacun et chacune d'entre vous, vous êtes appelés donc, eh bien, à changer le monde. À changer le monde. Et ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien, c'est à cela qu'on les reconnaît. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ils étendent le royaume de Dieu. Ils étendent le royaume de Dieu autour d'eux. Vous placez un saint au milieu de vous, ça sanctifie l'entourage. Vous placez quelqu'un qui est habité par la colère, par exemple. Vous avez Hébreux au chapitre 12 qui s'applique. Il diffuse sa colère dans toute la maison. L'état de votre cœur, votre cœur, il est toujours ouvert. Vous voyez? Et il faut qu'il soit ouvert à la suite de l'ouverture du cœur de Jésus. Il soit ouvert pour le salut du monde. Et non pour sa perte. Et notre cœur, il suinte. Il suinte de ce que nous sommes. Vous voyez? Il suinte l'amour de Dieu, ou bien alors il suinte l'amertume, ou bien alors il suinte la colère, il suinte des tas d'émotions toxiques. Et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait du tout pour communiquer tout ça. C'est pour ça que, en fait, dans la manière dont on a à nous abandonner à Dieu, si vous voulez, il y a un premier abandon, c'est celui que le Seigneur a réclamé de à Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est celui qui a traduit la Bible. Hein. Et alors, c'était un grand ascète. Il veillait, il jeûnait. Et puis, il a eu une apparition du Christ qui lui a dit « Merci beaucoup pour ton travail, Jérôme. Qu'as-tu d'autre à me donner ?» Et donc, Jérôme lui a répondu « Eh bien, Seigneur, mon ascèse. » « Merci, Jérôme. » Merci beaucoup, Jérôme. Mais qu'as-tu d'autre à me donner? Il a répondu, mais veille. Et le Seigneur Jésus lui a continué en lui disant, merci beaucoup, Jérôme, merci. Mais qu'as-tu d'autre à me donner? Et puis ça a continué comme ça. Puis en fait, il ne savait plus quoi dire, quoi, le pauvre Jérôme. Hein. Et là, le Seigneur Jésus lui a dit, donne-moi ton péché. Ton péché. Donne-moi ton péché. Donne-moi ton péché. Ça, c'est fort. Il est trop fort, Jésus. Ça, c'est fort. Donne-moi ton péché. Est-ce que vous aimez la croix? Vous aimez la croix?
La regarder, hein.
Vous aimez regarder la croix. Ça suffit. Hein? Eh bien, il faut apprendre à aimer la croix. Évidemment. Comment est-ce qu'on apprend à aimer la croix? La croix, c'est quoi? Le mystère de la croix. Qu'est-ce que c'est que le mystère de la croix? Qu'est-ce qui se passe à la croix? Oui, l'amour de Jésus pour chacun. Et qu'est-ce qu'il fait par amour? Il donne sa vie en offrande. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, il... Ça, c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant, c'est ce que vous avez dit. Mais ça, c'est une clé pour vous faire aimer la croix. Pour vous faire aimer la croix. C'est que le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il met à mort la mort. Il crucifie le péché. Il crucifie la mort et toutes les conséquences de la mort. Il crucifie le péché et toutes ses conséquences. Et ça, c'est à cause de cet acte-là, si vous voulez, que vous vous mettez à aimer la croix. Parce que par amour pour nous, il met à mort le péché. Et quand il nous dit, prends ta croix et viens avec moi sur le calvaire. Avance avec moi sur ce chemin de croix. Viens. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Viens avec moi On va ensemble crucifier ton péché. On va ensemble mettre à mort ton péché. On va ensemble mettre à mort ton péché. Et ça, je peux vous dire que ça fait du bien. On a envie d'y aller. J'espère. J'espère que vous avez envie d'y aller. Alors, je sais que c'est pas toujours évident. Pourquoi ? Bah parce que, en fait, il faut bien avouer que on aime un peu notre péché. Vous savez, il y a des péchés mignons. Des péchés mignons. On aime le péché. On pêche, pourquoi ? Parce que on y trouve un certain bien. Sinon, on pêcherait pas. Vous voyez ? C'est ça qui est terrible. Hein ? Ça qui est terrible. Et on doit apprendre. Il y a une chose dont vous avez le droit de haïr dans votre vie. Une seule chose que vous avez le droit de haïr. C'est votre péché. C'est la seule chose que vous avez le droit de haïr. Et il faut demander la grâce au Seigneur de haïr votre péché. Oui. Il faut apprendre à... Vous savez, on est aujourd'hui... Les gens sont hyper sensibles. Ils sont hyper sensibles. Ils ont des problèmes bien souvent d'intolérance, vous savez. Ils arrivent dans les hôtelleries. Et ici, on mange très très bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Franchement, chapeau. Hein. Et comment nous qui avons une hôtellerie dans notre prieuré, eh bien, les gens arrivent avec leur régime. J'ai un régime de ceci, je suis intolérant à cela. Ben vous savez quoi, j'ai pas encore vu moi des chrétiens qui connaissent une intolérance au péché. Intolérance au péché. Mais il faut la demander. Tu es intolérant au gluten. Eh bien, demande au Seigneur la grâce d'avoir une intolérance au péché. Voilà. Intolérance au péché. Parce que le bon Dieu, lui, il a ce rejet du péché, bien entendu. Mais il distingue bien sûr, et on est tous appelés à le faire de même avec lui, la distinction entre notre péché et nos personnes, bien entendu. Hein. Mais une intolérance au péché. Oui. Et il faut abandonner notre péché. Et vous êtes dans un lieu, vous êtes notre âme refuge des pécheurs. Ouais. Peut-être que je me voyais pas assez pécheur, alors elle m'a invité à prêcher. Vous voyez ? Notre âme des pécheurs, viens par là, toi. Elle m'a accroché. Notre âme... Mais profitez-en. Et je vous le dis pourquoi ? Parce que c'est vraiment la première clé, si vous voulez, qui conduit à une effusion du Saint-Esprit, qui conduit vraiment à la liberté de l'enfant de Dieu dans l'Esprit-Saint. Vous avez un verset auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un peu le verset de ma vie. Acte 2, 38. Vous savez, ça c'est le rêve de tout prédicateur. Donc c'est Pierre, le jour de la Pentecôte, là, qui fait son premier grand discours. Et puis, il touche tous les cœurs. Et ils sont plus de 3000 à être bouleversés par le discours de Pierre. Et à ce moment-là, ils demandent tous à Pierre, mais que devons-nous faire ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Acte 2, 38. Repentez-vous, soyez baptisés pour la rémission des péchés, et vous recevrez l'Esprit Saint. Ouais. Eh ben ça, c'est le verset de ma vie. Alors vous, allez chercher le verset de votre vie dans la Bible. Hein. Demandez au Seigneur de vous éclairer. En fait, Seigneur, de quoi je dois témoigner ? C'est quoi ma grâce, vous savez ? Parce que Dieu vous appelle par votre grâce. Hein. Il vous appelle par votre nom, en fait. Vous voyez ? Il connaît votre péché et il vous appelle par votre nom. J'ai entendu ça une fois, j'ai trouvé ça très beau. Il connaît votre péché, il vous appelle par votre nom. Satan, lui, il connaît votre nom et il vous appelle par votre péché. Ouais. Ouais, pas mal la différence. Et ben ça, il faut le demander. Oui. Cette grâce. Toc. Oui, la Vierge Marie. Je fais une parenthèse. Mais la Vierge Marie, est-ce qu'elle savait qu'elle était Immaculée Conception? Je crois pas. Je crois pas. Et pourtant, quand elle est apparue à Lourdes, dans la lumière de Dieu, elle a reçu son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Dieu l'a définie par sa grâce. Quelle est ta grâce? Demandez-la au Seigneur, hein, pour le monde d'aujourd'hui. Demandez-la au Seigneur pour le monde d'aujourd'hui. La grâce de la contrition de l'âme, c'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur. Parce que la contrition de l'âme, c'est la douleur intérieure que vous avez en face de Dieu. Et il faut la demander, cette douleur. Il faut demander au Seigneur, en fait, que ça pince, quoi. Il faut lui demander que ça pince, que votre péché vous pince, vous fasse mal. Vous voyez? Parce que ça, c'est un signe de la présence du Seigneur. Il faut jamais s'affoler de ce qui nous traverse intérieurement. Mais par contre, faut un petit peu s'inquiéter de l'émotion ou du sentiment qui y est conjoint. Vous voyez, Sainte Catherine de Sienne, par exemple, eh bien, il y a une période dans sa vie, elle a été très attaquée du côté de la chasteté. Et elle avait des visions d'hommes nus. Oui. Ça l'a travaillé dans son imaginaire, etc. Et elle était très mal, très très mal. Et puis elle a eu la visite de Jésus. Et alors s'installe un dialogue entre elle et Jésus sur cette question-là. Et elle demande à Jésus, mais comment est-ce qu'il a pu supporter ça? Etc. Comment est-ce qu'il peut supporter ce genre de choses, etc. Et elle, dans son âme extrêmement connaissant une contrition très profonde, etc. Et Jésus lui a dit ceci. Jésus lui a dit, mais tu vois ce que tu ressens, ce que tu as ressenti à ce moment-là. Eh bien, c'était moi, au cœur de ton âme, qui étais dans la souffrance. Et c'était le signe de ma présence, de la douleur qui m'habite face au péché. Et que si je n'avais pas habité ton âme, tu n'aurais pas ressenti ma souffrance. C'était donc une grâce de Dieu, vous voyez. Cette émotion intérieure, cette souffrance intérieure en face du péché, qui l'accompagnait dans son combat qu'elle vivait, était le signe de la présence du Christ en elle. C'est la différence entre un païen et vous. Un païen, il pêche. Ça lui fait rien. Mais le chrétien, habité par la grâce du Christ, par l'Esprit Saint, il pêche. Il a une douleur au fond de lui. Il a une profonde douleur au fond de lui. Vous voyez, qui est le signe de la présence de Jésus et qui doit réjouir son cœur. Et qui doit faire de lui, en fait, un vainqueur sur son péché. Alors on va dans la confession. Oui. Et dans la confession, la puissance de la bénédiction de la confession, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Oui. Extraordinaire. L'imposition des mains dans la confession, lorsque le Christ lui-même, en fait, vous pardonne. Comme jeune prêtre, j'ai fait une expérience comme cela, de la présence du Christ en moi. Parce que j'étais en train de faire une visite dans une communauté religieuse à qui je donnais des enseignements et je confessais la communauté. Donc j'arrive, j'étais tout jeune prêtre, et en arrivant là-bas, donc je commence à confesser des religieux, des religieuses, et puis il y en a une qui arrive et qui me dit: Vous inquiétez pas, mon père, je peux avoir un peu de mal à me confesser. Pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. On a l'habitude. Donc, elle commence, et puis, au moment où elle se confesse, en fait, il y a un moment où je sentais qu'elle avait beaucoup de mal, je lui dis, bah, écoutez, on va dire un je vous salue Marie. Et à ce moment-là, il y a une voix rock qui sort et qui dit, pas celle-là! Je suis super surpris. Je dis, waouh, qu'est-ce que... Et en fait, elle était dans un chemin d'exorcisme. Donc, le sacrement, particulièrement difficile à vivre, forcément. Et on continue. Donc, elle finit par écrire. Elle lit, en fait, donc ses fautes. Et puis, je ne dis rien. Et à ce moment-là, simplement, je lève les mains pour lui donner l'absolution. Et au moment où je lui lève les mains, elle fait ceci. Non ! Comme ça. Et elle fait un bond de 2 mètres en arrière. J'ai été la récupérer. Doucement. Vous n'êtes pas fait mal. Je la récupère. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Et en fait, le démon a vu le Christ. Parce que dans notre foi, c'est le Christ qui pardonne. Ça passe par un prêtre, mais on agit comme au moment de la très sainte, de l'imposition des mains pour l'Eucharistie, on agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Donc c'est le Christ qui donne l'absolution. C'est le Christ qui pardonne. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, voilà ce qui s'est passé, quoi. Voilà ce qu'elle a vu, quoi. Oui. Elle a vu, en fait, le démon, plutôt, lui, dans l'ordre spirituel, il a clairement vu le Christ, quoi. Oui. Donc, vous voyez, la puissance, en fait, et la rencontre qui se passe. Vous voyez, on peut vivre le sacrement de la confession. Vous pouvez le vivre du côté de l'efficacité, ou vous pouvez le vivre du côté de l'amour. Du côté de l'efficacité, parfois, ça, vous avez l'impression, à chaque fois, de revenir sur les mêmes choses, et ça va être pesant. Parce que vous allez mesurer aussi, vous allez être en train de mesurer l'efficacité du sacrement. OK? Alors que la grâce du sacrement, c'est le pardon. C'est le pardon d'abord, la grâce du sacrement de réconciliation. Vous voyez? Le pardon de Dieu qui vous rétablit dans la communion avec le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est une clé, en fait, pour vivre de l'Esprit Saint. C'est la première clé. C'est que ça vous reconnecte avec Dieu directement. Ça vous réaligne, en fait, avec la pensée de Jésus. Parce que vous êtes en train de faire un examen en plus de conscience quand vous allez, bien, vous l'avez fait juste avant d'y aller, quoi. Vous voyez? Donc ça vous réaligne complètement avec le Seigneur, quoi. Hein? Donc ça, c'est la première chose. Et puis sinon, ça c'est quand vous regardez, il y a la question d'efficacité, et puis vous pouvez regarder le sacrement du côté de l'amour. Et du côté de l'amour, c'est tout autre chose. Vous n'êtes plus dans cette logique d'efficacité, à mesurer l'efficacité d'un sacrement avec votre propre vue, mais vous êtes en train de le vivre, en fait, comme une rencontre avec Dieu. Oui. Vous le vivez comme une rencontre avec Jésus. Vous le vivez comme un cœur à cœur, comme le disciple bien-aimé qui se place sur la poitrine de Jésus, comme dans un couple qui se demande pardon mutuellement, vous voyez, et qui renoue la communion. Et c'est ça le pardon. C'est vraiment ça le pardon. C'est un acte, en fait, profondément d'amour qui vous réaligne avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est la première, en fait, disposition, c'est la première grâce à demander au Seigneur, c'est cette grâce, vous voyez, eh bien, de communion avec lui par le pardon, en fait, la grâce du pardon des péchés. Ça, c'est la toute première chose, en fait, à demander. Ok? La deuxième chose qui est liée, presque, et qui nous encombre énormément, et pour le coup, avec lequel le Seigneur a tout aussi horreur, c'est toujours le péché, mais c'est plus, en fait, là je vous ai parlé du repentir, vous voyez, celui qui revient vers Dieu, c'est une grâce du Seigneur, hein, parce que vous voyez, il faut avoir la force d'aller se présenter à un prêtre, de faire ce mouvement-là, et ça c'est le Christ, hein, qui vous fait revenir. Moi j'ai vraiment vécu, si vous voulez, cet acte que j'avais posé, comme l'acte de l'enfant prodigue, en fait, où c'est le Christ qui revient, qui va chercher l'enfant prodigue, au cœur de son péché et qui le ramène vers le Père. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. C'est vraiment la grâce du Seigneur, c'est le Christ qui m'a attiré dans le sacrement, qui m'a fait revenir vers le Père. Et c'est ce mouvement-là qui est extraordinaire. C'est de découvrir que, en fait, Jésus vient nous chercher dans notre péché, dans la merde de notre péché, excusez-moi, hein. Mais, parce que on l'emmène avec lui, hein. On l'emmène avec nous dans notre péché, hein. Il y est. Et puis, il te donne la force et te dit, allez, on va ensemble, on retourne à la maison du Père. Et là, c'est la grâce chrétienne qui vous ramène à la maison du Père et vous recevez le Père des miséricordes qui est là en train de vous attendre depuis X années. Ça fait combien de temps que je t'ai attendu? Eh bien, j'ai rien d'autre à faire que de te prendre dans mes bras, quoi. Le Père des miséricordes. Et le Père des miséricordes, il est sorti et chaque jour, il était là en train de veiller pour voir le retour de son enfant. Et c'est une résurrection! C'est une résurrection, c'est la grâce de la résurrection. Vous savez, moi je ressuscite des morts régulièrement. Je ressuscite des morts régulièrement. Vous dites, mais vous avez un sacré toupet. Mais déjà, moi je suis un ressuscité. Je suis un ressuscité, je suis désolé. Hein. Donc, quand on dit, vous savez, la parole du Seigneur ne s'accomplit pas, etc. Tout ça, c'était bon à l'époque de Jésus, c'est Jésus qui ressuscite. Hein? Donc, ressusciter les morts et puis guérissez les malades, etc., etc. Ça, c'est bon pour les années de ministère du Christ, quoi. Eh ben non. Oui, moi, je n'ai pas peur de le dire. Je suis un ressuscité. Amen. Je suis un ressuscité. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Et la grâce du prêtre, c'est la grâce de faire ressusciter les morts. C'est quelque chose d'énorme. De pouvoir faire passer des gens de la mort intérieure à la vie dans l'esprit. Vous voyez? Voilà. Et vous, même chose, dans la vie familiale, à travers le pardon à l'autre, vous pouvez ressusciter le cœur de votre conjoint. Il peut ressusciter le vôtre. Vous pouvez ressusciter par la bénédiction, en fait, vos enfants. Parce que vous allez leur apporter, en fait, une parole qui est une parole de vie au cœur, en fait, de leurs blessures. Oui. C'est pour ça que la bénédiction de Dieu est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante dans, bien sûr, la confession, mais elle est extrêmement puissante dans le quotidien. Dans le quotidien. Est-ce que vous vous bénissez? Est-ce que vous bénissez? C'était quand la dernière fois que vous avez béni quelqu'un? Hier. Ah. Amen. Ce matin? En assemblée, peut-être? Non? Ah non, avec les petites sœurs. La puissance de la bénédiction. Vous savez tous ce que ça veut dire bénir quelqu'un? Hein? Ça veut dire, voilà, benedicere, bien, dire du bien. Mais vous voyez, quand on a des paroles, vous avez tous eu des paroles marquantes dans votre vie. Quelquefois, généralement, ce sont les paroles des personnes qui vous aiment le plus. Normal. Vous attendez le plus d'amour de vos parents, par exemple. Eh ben, ce sont eux qui vont le plus vous blesser, hein. Parce que c'est à eux que vous donnez le plus de valeur dans la parole. Donc les personnes qui nous aiment le plus, ce sont elles qui nous blessent le plus. Donc faut pas s'en étonner. Faut pas s'en étonner d'une certaine manière. Mais on a des paroles comme ça qui nous marquent dans notre vie profondément. Vous voyez? Qui sont comme des paroles quelquefois qui peuvent même nous déterminer dans notre vie. Qui nous font prendre en fait qui nous établissent dans des ornières. Derrière, parce qu'on va s'appuyer sur ces paroles-là, et à cause de cela, on va poser des choix, et on va se comporter, on va avoir une attitude, un positionnement dans la relation, dans le monde, etc., qui est déterminé par les paroles que l'on a pu avoir étant enfant, etc., vous voyez. Et ce sont des paroles qui agissent comme des paroles de malédiction. Ça, faut apprendre à les briser. Faut apprendre à les identifier, parce que ce sont des mensonges. On verra ça demain, un peu. Et donc, les paroles humaines, elles vous touchent. Elles vous touchent, les paroles humaines. Mais alors, quand c'est une parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est autre chose. La parole de Dieu, elle est créatrice. Quand Dieu dit, cela est. Quand Dieu dit, cela est. La parole de Dieu est créatrice. Donc, quand il parle, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ça vous impacte, mais avec une profondeur qui n'est pas comparable avec une parole humaine. Ça vous impacte. Dieu dit, cela est, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Oui. Eh ben, quand vous bénissez, quand vous demandez à Dieu de bénir quelqu'un, vous dites à Dieu, Seigneur, Seigneur, parle, dis, bénis, dis du bien sur mon fils, sur ma fille, sur mon conjoint. Et Dieu, il attend que ça. Il attend que ça. Et Dieu bénit votre conjoint. Il bénit votre prière, il bénit votre conjoint et il le transforme. Et vous n'avez plus rien à faire. Et vous n'avez plus rien à faire quasiment. Vous êtes en train, en fait, à ce moment-là. Oui, ça, c'est le sacrement de mariage, par exemple. Vous voyez? Quand vous criez pendant 20 ans sur votre mari ou sur votre conjoint parce que il est bordélique, parce que ceci, parce que cela, ben, ça fait 20 ans, vous criez toujours et il n'y a rien qui a changé en 20 ans. On change pas un cœur. C'est Dieu qui change les cœurs. Ben, vous passez par le sacrement. Vous passez par le sacrement, vous dites, ben, en fait, soyez, vous voyez, vous êtes beaucoup plus exigeant avec Dieu, dans ce cas-là. Moins avec votre conjoint, avec les gens qui sont autour de vous, et beaucoup plus avec Dieu. Et ça, c'est vachement intéressant. Beaucoup plus avec le Seigneur. Seigneur, maintenant, tu rentres dans ma vie conjugale. Tu rentres dans ma vie religieuse, là, dans ma vie fraternelle, avec mes frères, là. Hein? Et puis tu vas changer le cœur, Seigneur. Puis tu vas changer le mien au passage, bien entendu. Hein. Bien entendu. Il va surtout peut-être même commencer par ça, mais il va aussi agir dans le cœur de l'autre. Et là, c'est merveilleux parce que il y a des connexions en fait spirituelles qui vous vous rendez compte en fait qu'on se retrouve parfois à être aligné sur les mêmes désirs, etc. Que le Seigneur a mis avant même que vous alliez vers l'autre, le Seigneur a mis ce que vous alliez demander dans le cœur de l'autre, etc., etc. Et là, vous êtes en train de vous appuyer, vous voyez, sur la grâce. Vous êtes en train de vous appuyer sur le souffle de Dieu. Hein? Donc, ça, c'est extrêmement important, vous voyez, de se dire, ben voilà, en fait, Seigneur, moi, je veux m'appuyer davantage sur toi, vivre davantage de toi, accueillir cet engagement, cette première responsabilité, en fait, qui t'appartient, en fait, dans ma vie. Et je vais le commencer, en fait, par ces démarches, en fait, ces démarches de pardon. Parce que c'est un acte, l'acte éminent de Dieu. L'acte éminent de Dieu, le pardon. Le pardon, le pape François, j'avais noté une citation, le pape François a dit ceci, il a dit, un chrétien qui ne pardonne pas, n'est pas un chrétien. N'est pas un chrétien. En fait, vous vous rendez compte, quand vous regardez que la croix, que le Christ a une parole vers son Père, entre autres, enfin, il y en a plusieurs, les sept paroles du Christ, il y a sept paroles du Christ en croix, mais il y en a une où il s'adresse à son Père et il dit quoi? Il dit quoi? Voilà. Père, pardonne-leur. Donc là, pourquoi est-ce que je vous dis il faut être attentif à ça? Parce que Jésus n'a pas pouvoir de pardonner. Il ne fait rien d'autre que ce que le Père fait. Et quand Jésus dit « Père, pardonne-leur », il pointe la source de la grâce du pardon. Et la source de la grâce du pardon, c'est le Père. C'est l'acte éminemment divin, éminemment chrétien. C'est le pardon qui jaillit du cœur du Père. Il n'y a que le Père qui fait couler cette grâce du pardon. Bah, c'est totalement divin, c'est totalement inhumain. Inhumain. ça vient de là-haut, ça vient du cœur du Père. C'est le Père qui pardonne. Et quand le Père pardonne, le Christ pardonne. Parce qu'il ne fait rien d'autre que ce que le Père lui dit de faire. Et donc le Christ pardonne. Et il est le pardon, en fait, incarné. Hein? Et il nous donne cette grâce à nous, à chacun d'entre nous, de pardonner à sa suite. Oui. Et ça, je peux vous dire, mais qu'est-ce que c'est libérateur, le pardon, qu'est-ce que c'est libérateur. Et c'est la deuxième chose que je voulais en fait pointer aujourd'hui avec vous, cette notion de pardon à l'autre. Jésus le dit, si vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur, hein, eh bien, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. C'est pas une option, en fait, le pardon. C'est pas une option. C'est la marque, en fait, de la grâce chrétienne. C'est la marque de votre vie. C'est la marque qu'on est membre du corps du Christ, profondément. Et c'est ce à quoi vraiment on est appelé à témoigner, envers et contre tout, quoi. Et des pardons qui sont extrêmement, évidemment, difficiles à donner. Les plus difficiles, tous les pardons qui sont liés aux atteintes à l'intégrité de la chair. Ce sont les objets de pardon qui sont les plus difficiles, bien sûr, à donner. Et qui ne peuvent, généralement, on a besoin d'ailleurs de nos frères et sœurs chrétiens pour nous aider à pardonner ce qui est impardonnable. Vous voyez? Mais ça, si vous voulez, c'est une œuvre de guérison pour vous, une œuvre de délivrance qu'on ne mesure que quand on l'a posée.
La bénédiction du Père à l'Esprit Saint, vous venez de suivre la première partie de cet enseignement du Père Yann Dominique de La Forest, un enseignement enregistré lors du Festival Marial de Notre-Dame du Lot en juillet 2022. La semaine prochaine, sur notre antenne, même jour, même heure, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de l'enseignement du Père Yann Dominique de La Forest.